Lindsay, Kathleen, Romuald, merci d'être avec nous en direct à notre studio de la Garde pour une nouvelle émission Vie et Partage avec un thème surprenant, les dangers de l'ésotérisme.
Salut Olivier.
Bonsoir.
Salut Olivier, bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Thème surprenant, en fait, thème surprenant, pas tant que ça. On est dans une période... sainte période, période de grande grâce, en cette semaine sainte, voilà, où voilà, on est dans la dernière ligne droite et on s'est dit, ben, peut-être que ce thème serait un thème de plus pour peut-être ouvrir sur ce qui pourrait en fait nous couper de Dieu encore, ce qui pourrait nous séparer de lui, ce qui fait en fait qu'on peut blesser aussi son cœur et sans même s'en rendre compte des fois. Et c'est ça la particularité aussi des fois de certaines pratiques ésotériques dont on va peut-être parler. Sous l'action du Saint-Esprit, c'est notre sœur Lindsay qui va, je pense, dans son témoignage, nous donner un peu le fil rouge de notre émission ce soir. Mais voilà, le désir qu'on a, c'est vraiment de peut-être, à travers nos expériences, pouvoir partager avec les frères et les édifier sur les techniques, les moyens, les stratagèmes que peut avoir l'ennemi de nos âmes des fois, pour pouvoir simplement nous détourner en fait de la voie du Christ. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot, ma sœur Kathleen ?
Déjà dire bonsoir.
Déjà.
Déjà dire bonsoir à tout le monde. Bienvenue, voilà, dans notre émission. Et simplement, on va se laisser guider par l'Esprit Saint. On va voir ce qu'il va nous dire ce soir. À travers déjà l'INSEE, et puis on va rebondir, bien évidemment.
Voilà, donc on va maintenant rentrer dans notre temps de témoignage. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude maintenant, chers frères et sœurs. Donc on va écouter notre sœur l'INSEE qui va nous donner son témoignage de vie, tout simplement. Pas de théologie théorique, mais la théologie pratique, la théologie de la vie d'une sœur, qui humblement en fait va nous raconter la manière dont Dieu s'est manifesté et glorifié dans sa vie.
Merci à tous. Alors je vais vous parler du passage de Dieu dans ma vie. Donc je m'appelle Lissé, originaire de la Martinique. Et très tôt, mon père nous a donné cette information que nous allons hériter en fait d'un don. Et en plus d'un héritage. Et étant d'une famille très, très modeste, donc on avait énormément d'espoir dans ces paroles que nous donnait notre père. Et dans tout cela, il nous apprenait que nous avions un voisin, en fait, qui, lui, avait depuis quelques générations, avait cette ambition, en fait, de nous enlever tout cela. De nous enlever que ce soit le don et l'héritage que nous n'avions pas encore récupéré, bien évidemment. Et donc, pour ce faire, il nous envoyait des attaques avec sa magie noire et que nous avions cet objectif, en fait, de repousser ces attaques avec la magie blanche. Voilà. Donc, je plante déjà un petit peu le décor. Donc, on grandit dans cette atmosphère de bataille et... mon père, qui déjà avait ce don de voyance, avait sa salle chez lui, mais pour autant, ça ne nous empêchait pas d'aller voir d'autres voyants. Et c'est ce que nous faisions. Et j'étais encore assez jeune, mais j'avais cet espoir, en fait, que l'un d'entre eux, en fait, me parle et me donne des informations sur mon avenir. Et un jour, ça a été le cas. Et j'étais remplie d'espoir parce que je me disais, ouais, il va me dire que je vais avoir beaucoup d'argent, que je vais avoir mari, enfant, tout ça. J'étais vraiment dans cet esprit-là. Et en fait, cette voyante me dit, tu vas tomber malade. Et comme je vous dis, j'étais encore jeune et mes espoirs se sont effondrés. Et je suis sortie de là vraiment triste. J'ai essayé de mettre ça dans un coin de ma tête. Mais c'est vraiment une phrase qui s'est inscrite en moi et qui, du coup, m'a poursuivie. Et donc, voilà, quelques années après, ma mère et mon père se séparent puisque l'atmosphère est assez tendue. Donc ma mère, ma sœur et moi-même, nous déménageons. Et voilà, mon père continue à faire sa vie de son côté. Quelques temps plus tard, ma mère rencontre un homme qui va faire un bout de chemin avec elle. Et il s'avère que cet homme, il est aussi psychothérapeute. Et en plus de son travail de psychothérapeute, il pratique tout ce qui est Reiki, tout ce qui est hypnose. Et en fait, je suis quelqu'un de naturel assez stressé. Et donc, je ne peux que sauter sur cette opportunité. D'autant plus que c'est l'ami de ma maman. Donc, je me dis que la réduction du prix de la consultation, voilà, ça sera bien intéressant. Donc, je saute sur cette occasion. Et on fait une séance de Reiki que je trouve vraiment sans intérêt. Et la séance d'hypnose ne fonctionne pas. Je suis trop stressée, trop tendue. Il a beau essayer, mais je n'arrive pas à être hypnotisée. Et je sors encore de cette séance frustrée parce que je me dis, soit c'est moi qui suis trop tendue, soit c'est lui qui n'est pas assez professionnel, mais j'avoue que ça me saoule un peu et je me détourne, je ne donne pas suite pour les prochaines consultations. Et en parallèle de ça, je suis aussi étudiante sur le campus de Chelcher à cette époque et j'ai une amie qui me propose d'aller à l'aumônerie qui se déroule du coup sur le campus. Et à une des rencontres, le prêtre, en fait, prend comme thème l'ésotérisme et l'occultisme. Il faut savoir qu'en Martinique, particulièrement, ce sont des pratiques qui sont assez ancrées, limite que les gens, qui, en tout cas qui ne pratiquent pas la foi chrétienne, ils ne savent plus faire le distinguo entre les pratiques occultes et la pratique religieuse. Et donc, du coup, le prêtre fait tout un listing de toutes les pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu, donc tout ce qui est Reiki, hypnose, yoga, acupuncture, horoscope, même les pierres énergétiques qu'on pense ré qui régénèrent notre corps. Il nous fait tout ce listing nous disant que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et évidemment, je sors de ce temps assez sceptique, me disant que limite, c'est le prêtre qui ne comprend pas, que ce n'est pas en restant dans son église et en lisant sa Bible qu'il va comprendre quelque chose. C'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais en sortant de ce temps. Parce que j'ai oublié de vous préciser, mais nous, la prière était en option chez nous, vraiment. La Bible était un objet de limite de décoration qui prenait, vous savez, cette fameuse couche de poussière. Parce que dans notre quartier en particulier, on entendait qu'il fallait pas lire la Bible parce que certains passages pouvaient attirer de mauvais esprits et tout. Donc vraiment, on avait la Bible pour avoir la Bible, mais on ne la lisait pas. Et donc voilà, dans cette totale voilà inconscience, voilà de ce que le Seigneur fait et est dans la parole, je critique le prêtre. Et donc, mais bizarrement quand même, le Seigneur arrive à se frayer un passage dans mon cœur. Et je sens que plus je mets côte à côte tout ce qui se passe dans ma vie, j'ai l'impression vraiment que le prêtre ne dit pas que du faux. Et donc, quelques années après, je pars en métropole pour poursuivre mes études. Et là, je fais une dépression, parce que la famille est loin, les résultats scolaires ne suivent pas. Je n'ai pas le médium du quartier, je n'ai pas mes cartes avec moi, je n'ai pas tout ce qu'il faut. Et donc, je n'ai qu'une seule solution, c'est de crier vers Dieu. Et il inscrit dans mon cœur d'aller à l'église, d'aller discuter avec un prêtre. C'est ce que je fais. Et il me donne le contact d'une dame. Et il s'avère que cette dame, c'est mon institutrice de maternelle d'il y a 20 ans, que je n'ai pas vue depuis des années. Et là, vraiment, je me sens en confiance. J'appelle cette dame et elle m'invite cordialement à un rosaire que propose la communauté Vie et Partage. Donc, certes, j'ai envie d'aller mieux, mais je vais à reculons à ce rosaire parce que un rosaire, c'est long, c'est rébarbatif, c'est un peu vieillot. Et je me dis que, bon, je souffre, Seigneur, donc j'y vais. Et vraiment, je rencontre des frères, des jeunes déjà, qui sont dans la joie et qui ont ce souci de l'autre. Autant vous dire que je n'ai pas quitté la communauté depuis. Et à une autre rencontre, il propose en fait d'écouter un audio d'un prêtre qui parle encore de ce thème, de l'occultisme, de l'ésotérisme. Et particulièrement, il parle de la magie noire et de la magie blanche. Comme je vous disais, moi, dans mon enfance, on avait cette bataille entre la magie blanche de notre côté et la magie noire de notre voisin. Et ça m'a vraiment interpellée. Et il parlait aussi d'Harry Potter. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi qu'Harry Potter, c'était pour le coup ma Bible. Je lisais Harry Potter, je buvais Harry Potter, tout était Harry Potter. Et Et surtout, ce qui m'intéressait dans ces ouvrages, c'était ce côté, ce combat, pareil, de la magie noire, de la magie blanche, le bien contre le mal. Et pour moi, c'était totalement normal. Et dans cette explication, le prêtre prend comme exemple un proxénète. Il parle d'un proxénète. Il y a le proxénète qui est gentil et il y a le proxénète qui est méchant. Mais dans les deux cas, ça reste un proxénète. Et ça peut vous paraître peu de choses, mais cette parole a détruit cette appétence que j'avais pour les choses ésotériques. Je suis sortie de là, j'étais en mode conquérante. Il fallait que j'aille parler à ma famille, il fallait que je parle à mon père en particulier, parce que c'est lui qui était le plus enraciné dans cette histoire. Et mon père, malheureusement, c'est quelqu'un de très buté, de très borné. Donc, les choses actuellement encore sont difficiles, mais je suis en mode, il faut qu'il comprenne que là, il ne faut pas jouer avec son âme. Et en plus, surtout de savoir toutes ces choses, on ne peut pas les garder pour soi, parce que ce sont des choses que le Seigneur va nous demander. Il faudra régler les comptes après avec ça. Donc, je n'ai fait que qu'en parler, leur dire de ne pas rester dans tout ça, parce que l'horoscope a l'air très, très vite fait comme ça. Mais on n'a pas idée de toutes les portes qui sont ouvertes dans notre âme, en fait, à travers toutes ces choses. Et je vous ai parlé du fait que cette voyante m'avait dit que j'allais tomber malade. Il y a quelques années de cela, on m'a diagnostiqué une tumeur ovarienne. Donc, ce qui a induit, en fait, l'ablation de mes ovaires, ce qui fait que je ne peux plus donner la vie. Et en tout cas, naturellement, mais le Seigneur, il a d'autres plans, donc sait-on jamais. Et du coup, je suis suivie par rapport à cette maladie. Et sur le moment, évidemment, j'ai tout de suite pensé à cette phrase qu'avait dite cette femme, mais j'ai pris cette épreuve comme étant l'opportunité de réparer les péchés que nous avions commis dans notre famille, dans les générations passées. Donc, j'ai pris cette épreuve comme étant vraiment une sorte de bouée de sauvetage, de souffrance certes, mais pour pouvoir nous libérer des pièges, des liens ancestraux. Et vous savez très bien qu'avec le diable, rien n'est gratuit. On a pu faire toutes ces choses dans le passé, mais avec lui, il faut passer à la caisse. Et les choses que nous avons pu faire se répercutent et se répercutent sur les générations à venir. Et j'ai le cas de mon petit cousin qui, lui, ne connaissait pas la Bible, ne connaissait pas la foi. Sa mère en particulier ne lui parlait pas du tout de Jésus. Et il disait, il devait avoir 7 ou 8 ans, il disait voir et parler avec le diable. Autant vous dire que ça m'a bouleversée et j'ai vraiment mis ce jeune homme dans mes prières. Et pas que dans mes prières. J'ai aussi fait des messes. Et il y a un prêtre qui expliquait que malheureusement, il y a trop peu de messes qui sont faites, que ce soit pour les vivants ou les défunts. Et par une situation que je ne peux pas vous expliquer parce que ça, ce serait trop long, j'ai pu mettre en place quelques messes. Ça a duré 5 ou 6 mois. Et un an après, j'apprends que ce jeune homme va avoir le baptême et faire sa première communion. Et ce n'est pas que pour lui. J'ai un autre petit cousin qui, lui, ne parle pas ou voit le diable, mais il a vu des choses qu'il n'était pas censé voir à son jeune âge. Et pareil, dans la même année, à un intervalle de 2 mois à peu près, les deux se sont fait baptiser et ont fait leur première communion. Évidemment, le combat n'est pas terminé, puisque nous sommes en pèlerinage sur la terre, comme aime dire notre modérateur Rio, mais c'est un combat que nous devons mener. La prière, le jeûne, la messe pour nos familles, même pour nous. Et c'est là que je vois que un chrétien seul est un chrétien en danger. Le fait d'avoir intégré cette communauté, d'avoir connu des chrétiens en tout cas, a fait que j'ai pu parler à mes proches des dangers de l'ésotérisme. J'ai pu prier pour ces âmes et que je prie aussi actuellement pour elles. J'ai pu faire toutes ces messes, ce qui fait que le Seigneur a une main encore plus particulière sur ces âmes. Frères et sœurs, vous devez comprendre que le monde nous offre un éventail de pratiques qui paraissent saines. Le yoga, c'est quelque chose qui paraît sain, Mais combien de portes sont ouvertes qui nous mènent au diable? Et le parallèle que je faisais quand je pensais à mon témoignage, c'est dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Quand cette voyante m'a dit que j'allais tomber malade, j'ai vraiment eu cette sensation qu'une part de mon innocence était partie, que j'avais offert mon insouciance au diable. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que Adam et Ève étaient dans le jardin, ils vivaient dans un bonheur parfait, en communion avec le Seigneur. Mais ils se sont laissés avoir par ce fruit défendu. Et une fois qu'ils ont eu ce fruit défendu, ils ont entendu des choses qu'ils ne pouvaient plus gérer. Donc ils se sont revêtus, ils se sont détournés du regard de Dieu. Eh bien, c'est la même chose que nous faisons quand nous pratiquons toutes ces actions. Nous nous mettons dans des choses que peut-être que notre corps, notre âme ne peut pas gérer. Il est temps, frères et sœurs, de revenir à Dieu, vraiment de lui offrir tout ce que nous sommes. Parce que avec le diable, il y a une immédiateté, ça, il n'y a pas de souci, il nous offre tout. Mais avec quel prix, avec quelles conséquences derrière? Le Seigneur, il est certes, il prend son temps, certes. On peut trouver le temps long. Mais qu'est-ce que le trésor qu'il nous donne après est merveilleux. Tellement qu'on, des fois, on se dit qu'on n'aurait même pas pu imaginer tant de grâces venant de Dieu. Donc vraiment, j'espère que ce petit témoignage qui ne, voilà, qui fait ce qu'il peut, pourra en tout cas toucher une âme ou deux, afin qu'il puisse se détourner de toutes ces pratiques ésotériques et vous éloigner de tout ce qui est Halloween aussi. Halloween n'est pas une fête anodine, frères et sœurs. Ce ne sont pas que des costumes que nous mettons pour faire peur aux gens. Ce sont des fêtes sataniques, des fêtes qui sont tournées vers le diable. Donc, frères et sœurs, faisons attention à ce que nous voyons, ce que nous écoutons, et lisons la parole de Dieu. Dans Deutéronome, il est bien noté que le Seigneur ne nous trouve pas en compagnie de sorciers, en compagnie de personnes qui tirent les cartes, etc. Et n'hésitez pas, allez regarder, lisez cette parole. Le Seigneur n'est pas un Dieu menteur, mais le diable, si. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que pendant ces derniers temps qui nous amènent vers Pâques, que nous puissions avoir un cœur totalement tourné vers Dieu. Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Je rigole parce que c'est fou le décalage qu'il y a entre la femme que vous venez d'entendre, avec son verbe tranchant, incisif, et la même femme que la veille j'avais au téléphone, à qui je disais que c'était elle qui allait témoigner à la radio, et qui n'était pas du tout sur ça. Vraiment. Mais c'est-à-dire, c'est pas qu'elle ne voulait pas, hein. C'est que elle, comme elle vous le dit, elle est de nature stressée, etc., etc. Et elle m'a enchaîné de questions pour savoir comment ça allait se passer. Elle voulait tout savoir dans les moindres détails, etc., etc. Mais je bénis le Seigneur parce que la volonté qu'elle a eue, en fait, de répondre à l'appel a suffi, je crois, pour que le Saint-Esprit puisse agir vraiment puissamment. Et j'appuie sa prière quand elle dit qu'elle espère en fait que eh bien, une, deux, peut-être plus, d'âmes, en entendant ce témoignage-là, soit se détourneront, soit seront vecteurs pour pouvoir faire d'autres se détourner. Ça peut paraître un peu particulier et on peut vouloir se dire oui, mais les propos peuvent paraître un peu légalistes. On doit pas, on fait pas, etc. Mais en réalité, frères et sœurs, dans tout ça, le souci premier, fondamental, que le Seigneur a et qu'il nous demande d'avoir, c'est le salut des âmes de nos frères et sœurs. Et pendant que ma sœur parlait, il y a deux paroles qui sont montées dans mon cœur. La première, c'est mon peuple se meurt faute de connaissances. Et c'est très bien illustré quand notre sœur Lynn s'est dit, lisez la Bible, c'est marqué, etc., etc. Vous savez, c'est une phrase qu'on a peut-être déjà entendue beaucoup, beaucoup de fois. Oui, mais il faut lire la Bible, tu verras, etc. Comme si, en soi, c'était une solution. Mais en réalité, la Bible, frères et sœurs, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un bouquin, ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas quelque chose que tu consultes pour obtenir un savoir. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le Verbe C'est le même verbe qui s'est incarné, en fait, et dont nous allons bientôt célébrer la mort et la résurrection. C'est cette même parole qui nous parle depuis 2000 ans, que le monde a bien voulu essayer de détruire d'etc. de manière, mais qui, j'allais dire étonnamment, mais pas du tout, n'y arrive pas. Elle est toujours là, et elle veut toujours nous parler, et elle veut nous prévenir. Quand ma sœur dit oui, il y a un moment où il va falloir passer à la caisse, comme elle dit, la réalité, c'est que Dieu n'a absolument pas envie de juste t'annoncer que la vie que tu as menée te conduit hors de son amour. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que ce que dit le catéchisme de l'Église catholique de l'enfer, il dit que c'est un état d'auto-exclusion. Ça veut dire que même lorsqu'on dit « à un moment, il va falloir faire les comptes », en réalité, Dieu ne va pas te juger et te condamner à l'enfer. Dieu va effectivement, de manière juste, selon sa justice, te montrer ce que tu as fait dans ta vie. Et à l'issue de cela, par toi-même, tu sauras là où tu dois aller. Imaginez ça, la famille, c'est terrible. Et dans ce que je suis en train de vous dire, Dieu n'aura de cesse jusqu'à la dernière seconde de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle, Dieu n'aura de cesse de supplier que tu acceptes la seule chose qui peut te tirer de ce mauvais pas-là, c'est sa miséricorde. Et toutes les petites choses dont notre sœur nous a parlé concernant l'ésotérisme sont des espèces de subterfuges qu'utilise l'ennemi de ton âme pour te déshabituer à la voix de Dieu, te déshabituer à être en contact avec cette miséricorde. Mais quand tu le sais, tu peux devenir, en étant éclairé, éclairant pour les autres. Et ça, c'est la deuxième parole que j'avais du coup dans le cœur, c'est Saint Paul qui dit ça, qui montait, c'était « malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. » C'est toujours une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et dans cette, voilà, dans tout ce contexte-là, on va quand même poursuivre et passer à notre partage et à notre échange. Où déjà, toi, Kat, tout simplement, la question sera assez simple. C'est dans tout ce que tu as entendu, là, ce soir, ben, où est-ce que ça te rejoint? Qu'est-ce que ça te dit? Où ça te parle?
Alors, où ça me parle ce soir, ce qui est venu dans mon cœur quand j'écoutais ce témoignage, c'est la stratégie du diable. Il y avait deux stratégies, en fait, que vraiment le Seigneur nous donne la grâce, hein, vraiment que nous ayons en tête là et vraiment dans le cœur, que ce soir, le Seigneur nous donne l'opportunité de démasquer le diable. Et dans deux stratégies, la première, c'est il attend que tu sois faible. Concrètement, il attend pour attaquer que tu sois en situation de faiblesse. Là, l'INSEE, elle était sous l'autorité de son père, donc elle n'avait pas trop le choix. Et ils n'avaient pas trop d'argent, elle expliquait. Et dans cette spirale, elle est rentrée en fait dans ses pratiques. Moi, je suis rentrée dans ses pratiques aussi à un moment donné de ma vie, parce que mon père a été assassiné quand j'avais 14 ans. Et quand j'ai été habitée chez ma grand-mère, j'ai rencontré des gens, des jeunes de mon âge, de 14 ans, qui m'ont dit « Kathleen, on est désolée de ce qui t'arrive. On va t'aider. » Et comme j'avais besoin d'aide, j'étais faible, mon père venait de décéder. Donc je suis allée. Et j'ai ouvert des portes à des pratiques. Aussi, où j'ai donné mon oui en fait au diable avant de donner mon oui au Seigneur. Et l'autre stratégie, c'est que une fois que moi j'ai vécu en fait deux exorcismes, donc une fois que j'ai vécu ces exorcismes où le Seigneur m'a libérée vraiment, des années après, donc 4 ans après, je vais à Medjugorje, qui est un lieu d'apparition marielle, si vous ne connaissez pas. Je vais à Medjugorje, où notre maman, je l'ai devant moi dans ce studio, c'est une lionne pour ses enfants. Et je vais à Medjugorje, et là, j'avais des manifestations avant mon exorcisme, j'avais beaucoup de manifestations du diable qui m'humiliaient, beaucoup en public, ou voilà. Et là, quand j'arrive à Medjugorje, et donc j'avais plus rien après cet exorcisme, et quand j'arrive à Medjugorje, 4 ans après, je vais à un confessionnal, je vais me confesser, et là, j'ai à nouveau des manifestations. Et là, la peur, l'autre stratégie du diable, c'est de nous faire peur. Et là, j'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit, mon Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas libérée en fait il y a 4 ans. Ce n'est pas vrai, tu ne m'as pas libérée. Si tu m'avais libérée, je n'aurais pas eu ces manifestations dans ce confessionnal. Je n'aurais pas été comme ça en fait. Je viens dans un lieu en fait d'apparition mariage, je viens dans un lieu de pèlerinage et je suis encore plus mal que quand je suis arrivée. C'est quoi? Et je me souviens en fait que pour ce pèlerinage, ben justement Romuald qui est à côté de moi, avait une image pour moi. Je crois que tu me l'avais donné en fait en retournant en France, je sais plus, mais c'était que voilà le diable, il frappe. Il y a des coups de vent, donc vous allez entendre beaucoup de bruit en fait avec une tempête, hein, donc des portes qui claquent, des fenêtres qui claquent, etc., etc. Mais ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Et à un moment donné, à partir du moment où j'ai acquiescé la parole que le Seigneur avait donnée à Romuald, que c'était de la peur en fait que le diable voulait me faire avoir, mais que ce n'était que du vent, eh ben, tout était terminé, frères et sœurs. Donc la stratégie du diable, et jusqu'à présent, je n'ai plus eu de manifestation. Donc ça veut bien dire que le diable, il va s'attaquer aux plus faibles. En tout cas, des personnes qui sont fragiles, qui ont peut-être des épreuves, etc., etc., et qui n'osent pas crier vers Dieu. Ou alors qui n'ont personne autour d'eux pour leur dire la vérité. Et par facilité, ben, ils vont se tourner vers ceux qu'ils voient de façon primaire. Et l'autre stratégie, c'est de nous faire peur. Voilà, ben, tu vas tomber malade, ou il va arriver telle chose à ta famille, ou que sais-je. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, le scoop de ce soir, c'est que ce n'est pas vrai, ce n'est que du vent. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Notre Dieu, il peut gérer toutes les situations, qu'on ait des problèmes d'argent, qu'on ait des problèmes en fait de maladie, qu'on ait des problèmes, je sais pas moi, de relations ou de pardon, que sais-je. C'est le Dieu de l'impossible. Donc vraiment, ne rentrons pas dans des failles comme ça, j'ai envie de dire bêtement, parce que effectivement je suis entrée bêtement, parce qu'on peut se dire ah bah oui bah du coup on se dit mais qui peut se faire avoir, bah, tout le monde en fait à un moment donné de sa vie peut se faire avoir en fait par cela. Donc voilà ce que ça m'évoque en tout cas là spontanément, et pour démasquer vraiment les ruses du diable.
Chers auditeurs, auditrices, nous sommes dans notre émission Vie et Partage en compagnie de Lindsay, Kathleen, Romuald. Il est question ce mois-ci des dangers de l'ésotérisme et nous sommes avec Christiane qui aurait une question. Bienvenue sur l'antenne de Radio Maria, Christiane.
Oui, bonjour à tous. Je voulais vous poser la question parce que, comme vous dites, vous êtes allé à Medjugorje justement. Et là, au mois de juillet de l'année dernière, ma fille est allée avec ma petite fille, qui a des gros problèmes, hein. Elle avait été violée, après elle s'est mise avec des LGBT quand elle s'est retrouvée dans les hôpitaux psychiatriques, enfin bon, c'est toujours pas guéri. Elle l'a emmenée à Medjugorje, elle a encore tenté de se suicider, encore avalé des cachets, elle s'est retrouvée à l'hôpital là-bas, et en fait, elle est revenue après en France ici, mais Elle a passé que la première journée, vraiment, avec tout le monde. Après, elle était allée à l'hôpital. Alors, on s'est dit, mais c'est pas possible, on va voir Marie. Et tout, elle revient, elle est encore pire qu'avant. Alors, on s'est dit, bon, ben, comme vous dites, le diable, il se sert de tout. Donc, on se dit, il fait ça pour qu'on ne prie plus, qu'on se dise, bon, ben, le bon Dieu s'occupe pas de nous. Mais bon, en attendant, on voit pas beaucoup de changements. Alors, c'est savoir, parce qu'elle avait eu aussi un exorcisme avec un prêtre qui n'est plus prêtre d'ailleurs maintenant, malheureusement. Mais enfin, c'est une question qu'on se pose, quoi, parce que elle a dit à sa mère, là, maman, c'est pas moi qui voulais, c'est vraiment le démon qui m'a forcé. Et on comprend pas, parce qu'une fois, elle avait expliqué aussi que quand elle était dans le coma, elle est arrivée à l'hôpital, et en fait, la police était venue, tout le monde, hein, parce que quand c'est comme ça. Et en fait, là, à ce moment-là, elle avait vu Jésus qui chassait le démon. Et aussitôt, elle est sortie du coma. Et pourquoi ça continue, donc? Parce qu'elle a quand même vu Jésus, et ben, elle n'arrive pas à prier, mais elle veut quand même avoir son chapelet. Mais vous voyez, c'est très confus, c'est très compliqué. Alors,
c'est une question profonde, Christiane.
On continue à prier, mais on ne sait pas.
Merci de cette question.
Merci beaucoup, Christiane, de votre question. Alors déjà, en février 2014, je vais à Medjugorje. Et là, en fait, je suis vraiment par terre, où je suis vraiment humiliée, où j'ai vraiment de grosses manifestations spirituelles. Et j'ai envie de vous dire, en fait, si je m'étais découragée là, je ne serais pas, en fait, en train de vous parler ce soir. La grâce que j'ai eue à ce moment-là, parce que je suis sortie vraiment en février 2014, où je suis retournée en France, où j'étais vraiment comme un légume, vraiment, pendant des mois. Et je rencontrais en fait cette communauté Vie et Partage. Donc déjà de un, il ne faut pas que vous soyez seul. Déjà de un, l'isolement. Alors je ne sais pas si vous êtes entouré de frères et sœurs, en tout cas, qui prient, mais...
Il y a des prêtres qui prient pour... Pour nous, il y a de la famille de mon gendre
Non, pas des gens. Alors attention, voilà, pas des gens qui prient pour vous, des gens qui vont vous accompagner aussi dans ce que vous vivez. Et donc moi, et surtout en fait, dans ce chemin de conversion. Parce que du coup, être libéré, moi j'ai compris dans mon témoignage que être libéré, c'est pas ce que le Seigneur en fait veut. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on vienne avec lui, qu'on soit converti, qu'on ait une conversion de cœur. Parce que si vous êtes libéré, vous voyez, elle va voir un exorciste et qu'elle est libérée et qu'elle retombe encore plus bas que quand elle est revenue, ça sert à rien. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est est-ce que elle a ce désir aussi de conversion. Et moi, la différence, c'est que effectivement, parce que ça faisait des années qu'on priait pour moi, en février 2014. Voilà, j'avais cette communauté. Et surtout, en fait, mon exorcisme est arrivé en octobre 2014, donc des mois après. Donc, vous voyez, en fait, que la patience aussi, la prière, et bien évidemment, vous entourez, en fait, des bonnes personnes et des personnes aussi habilitées dans l'Église qui pourront vous aider. Voilà.
Oui, parce que là, en fait, elle avait vu l'exorciste, mais ça lui a fait tellement peur qu'elle a redemandé d'aller en clinique. Alors, naturellement, après, c'est reparti.
Merci, Christiane, en tout cas, d'être venue dans notre émission Vie et Partage. Posez votre question. Peut-être cette réponse aussi, vous en avez parlé, c'est très heureux, l'INSEE, d'offrir des messes. Et nous avons justement une question qui vous concerne, l'INSEE, qui remercie tout d'abord pour votre témoignage. Et comment faire, est-il demandé, mais ça a été déjà répondu quasiment, hein, pour s'en sortir, si on a eu toutes ces pratiques, aller voir un prêtre exorciste. Et l'autre question, pourquoi, l'INSEE, dites-vous qu'Harry Potter n'est pas à lire ou à regarder?
D'accord, déjà merci beaucoup pour cette question. Je vais commencer avec Harry Potter. En fait, on est charnel, nous avons notre corps, et nous avons aussi notre âme. Il faut qu'on se dise, en fait, que nous avons cette âme qui est très sensible, extrêmement sensible et très précieuse. Et en fait, quand nous nous mettons à lire et à écouter, je prends l'exemple pour Harry Potter exactement, quand nous lisons ces choses, en fait, nous participons en fait à un plan qui est de nous mettre dans un mood surnaturel. On se sent limite proche du personnage. C'est le but du livre, de se sentir dans l'histoire exactement. Et Harry Potter a cette facilité, cette faculté, parce que déjà, le personnage est jeune, il est très attachant. On se sent bien. On se sent limite dans le combat avec ce jeune. Et la chose aussi, c'est qu'il faut se dire que rien n'est anodin, en fait, dans les écritures, les sortilèges qui sont donnés. Je n'ai pas la science infuse, mais il faut se renseigner, savoir si vraiment ce ne sont pas de vraies paroles, de vrais sortilèges qui sont dits. Il y a toute une... Et quand on voit, en fait, toute l'armée de jeunes qui sont ramenés vers Harry Potter, parce que moi, déjà, à la base... Je ne suis pas une grande lectrice, je ne lis pas à la base. Et c'est vraiment ce livre qui m'a absorbée, réconciliée avec la lecture, au point de vouloir à tout prix lire ce livre. Je vivais à regarder les films encore et encore, dans différentes langues. C'était mon livre de chevet. J'avais, pour tout vous dire, j'avais cette ambition, pourtant je vous dis que je suis quelqu'un de très solitaire, j'avais cette ambition de passer en casting pour même être un personnage secondaire, mais je voulais être à tout prix dans tout ce qui était lié à Harry Potter. Et le truc qu'il faut vous dire aussi, c'est que lorsqu'on commence à entrer dans ce genre de lecture, on a envie de connaître un peu plus. Donc, on va se renseigner sur Internet. Et c'est là que certains groupes peuvent se créer. Et dans ces groupes, ne vous dites pas que tout est innocent. Certains connaissent la pratique de la sorcellerie. Donc, vous allez limite être initié à ce genre de choses. Donc, ouvrez encore plus votre âme à des choses qui viennent du diable. Donc, c'est beau de se dire que faut peut-être pas lire, mais... Rien n'est innocent, dites-vous, dans ce monde. Et Harry Potter est vraiment un tremplin pour vous lancer dans ces choses occultes. Ce n'est pas le seul, mais il permet vraiment de se lancer dans ces choses qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais soyez-en certains que ce n'est pas innocent, ce genre de lecture.
En tout cas, Romuald Klatlin, moi j'ai envie de dire oui, elle a bien répondu quand même à la question.
Elle a bien répondu.
Elle a bien répondu, oui. Merci beaucoup, Lindsay. Nous arrivons tranquillement au terme de notre émission. Nous vous laissons le mot de la fin.
Le mot de la fin, frères et sœurs, retenez, je vous en supplie, retenez cette parole. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Ne soyez pas naïfs. Ne soyons pas naïfs, en fait. C'est ce que notre sœur Lindsay nous disait. Rien, en fait. Rien n'est anodin dans ce monde, et je crois que c'est une réalité. Et nous devons vraiment faire de la parole de Dieu et de la prière au Saint-Esprit, les deux, un credo, en fait, pour pouvoir naviguer dans ce monde. Sinon, le diable qui est pur esprit va nous perdre. C'est une réalité. Donc je prie vraiment, et je dépose ça vraiment entre les mains de Maman Marie pour qu'elle intercède pour chacun de ses enfants, pour que nous puissions avoir le courage, l'intelligence et la sagesse de chercher Dieu, de chercher sa volonté et de désirer ardemment le suivre plus que tout. Et je prie également pour que nous ayons le courage d'accepter, d'endurer les épreuves de la vie, celles qui nous sont imposées, parce que Dieu n'est jamais autant proche de ses enfants que lorsqu'il souffre. Amen.
Amen. Et un chaleureux merci à vous trois d'être venus dans notre émission Vie et Partage. Romuald, Kathleen, vous étiez en direct de notre studio de Paris. Merci, Lindsay, de votre témoignage. Rendez-vous dans un mois. Chers auditeurs, c'était notre émission Vie et Partage. Il y était question des dangers de l'ésotérisme. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.